OK. Bon, nous avons à peu près, je vous remercie pour avoir respecté les consignes. Nous avons à peu près 6 minutes que nous pourrons transformer sûrement en 10 s'il le faut, maximum, pour des questions, discussions, s'il vous plaît. Alors, on va prendre 2 questions. Je vous demanderai d'être bref dans les questions pour qu'on puisse avoir plusieurs questions. On en prend 2 et on passe à la suite, d'accord? Donc, je pense que monsieur Labad, au premier, après ce sera vous. Et après, je reviendrai. Après, je reviens.
Ma question est simple. J'ai l'expérience de la Californie pour la même situation que Bridgeport. Il est en Californie considéré, et il doit y avoir une décision de la Cour suprême dessus, qu'il est inconstitutionnel de proposer un cours de langue ou une activité en cours de langue minoritaire, donc qui n'est pas l'anglais, à des étudiants qui sont sélectionnés comme étant des natifs, première, deuxième ou troisième génération de la communauté. De tels cours de langue qui sont des suppléments doivent être ouverts à tous les étudiants volontaires en Californie. Donc c'est le cas de l'espagnol, par exemple. Les classes d'espagnol sont ouvertes à tous les étudiants qui le veulent, qu'ils soient d'origine espagnole ou pas. Et est-ce que c'est la même situation à Bridgeport? Parce que ça me semble que là, on est contre une décision de Cour suprême, si ce n'est que des étudiants d'origine portugaise qui peuvent suivre les cours de langue portugaise.
En fait, les cours ne sont pas que pour eux, mais la majorité des inscrits sont donc issus d'un parcours migratoire portugais. Aujourd'hui, ce qu'on observe à Bridgeport, mais pas à Montréal, c'est qu'il y a, parce qu'il y a dans les deux cas une nouvelle migration brésilienne. Et les Brésiliens, peut-être parce que justement la migration aujourd'hui est très différente de ces migrations-là dans les années 50, il n'y a pas le besoin vraiment de construire un quartier ethnique. Donc ils n'ont pas vraiment un quartier brésilien, mais ils s'appuient sur toutes les institutions de langue portugaise. Donc à Bridgeport, j'ai rencontré des élèves qui sont des familles brésiliennes en fait. Ils suivent des cours. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a une lutte vraiment entre variantes. Il suit des cours de portugais européen, mais c'est différent. Mais à Montréal, qui a le même type de dynamique à niveau migratoire, on n'a aucun étudiant d'origine brésilienne ou autre dans les cours. Ça, j'y étais il y a très peu et je pars bientôt, donc je connais très bien.
Merci. Monsieur, s'il vous plaît.
Je voudrais d'abord me présenter en 3 mots et d'abord remercier toutes les interventions de ce matin, tous les intervenants qui ont dit des choses particulièrement intéressantes et qui m'ont beaucoup frappé. Je m'appelle Jean-Marie Roussignol. En roumain, ça pourrait être privigătoare, dar aproape de privigătoare, privigătoare. Roussignol et pas Roussignol parce que je suis un oiseau du Midi, du Languedoc. Et cet oiseau a été un pigeon voyageur. J'ai beaucoup voyagé 22 ans en Afrique, au nord et au sud du Sahara, et presque autant de temps en Europe sur des programmes européens. Et donc, comme je suis vieux aussi et que j'ai la mémoire qui flanche, je voudrais m'arrêter sur les dernières interventions, notamment celle de monsieur Kofi Gagnon, parce qu'il a dit des choses qui m'ont frappé. Il a parlé des langues. De
Je
l'appropriation.
m'excuse, mais je vous demanderai de vous poser une question parce que nous avons très
Oui.
peu de temps. Soyez, s'il vous plaît,
D'accord.
très bref.
Ça
D'accord?
sera vite fait. Ça
Parce
sera
qu'après,
vite
on pourra discuter après pendant le repas. Je m'excuse
Ça
parce que
sera
j'ai
vite
encore
fait.
d'autres gens qui veulent parler et
D'accord.
nous devons terminer dans 5 minutes maximum.
D'accord, mais ça sera très vite fait. Donc, ce que monsieur Kofi Gagnon a dit, il a parlé de l'appropriation des langues importées comme le français, l'anglais, etc., par les pays locaux. Il a évoqué la Côte d'Ivoire. J'ai vécu 6 ans en Côte d'Ivoire. À l'époque, on parlait de la langue de Moussa, qui est une sorte de créole français, qui est remarquable parce qu'il y a des auteurs locaux qui ont traduit les fables de La Fontaine et les fables de Florian en langue de Moussa. Et c'était une langue très pittoresque. D'autre part, vous avez parlé de la façon dont, dans les écoles, on interdisait aux élèves de parler les langues vernaculaires. Et ça me rappelle que nous, en France, quand on nous a imposé le français, pareil, les élèves se faisaient taper sur les doigts quand ils parlaient occitan, quand ils parlaient breton et d'autres langues régionales. Donc c'est exactement la même situation. Et là, pour terminer, je voudrais revenir à l'Europe, où j'ai travaillé sur je ne sais combien de programmes européens ou de la Banque mondiale ou des Nations unies dans divers pays d'Europe, y compris à Itch, en Allemagne, où tous les programmes sur lesquels j'ai travaillé se faisaient en anglais. Si donc on nous impose de plus en plus l'anglais, le résultat, c'est que beaucoup de jeunes dans ces pays apprennent évidemment l'anglais prioritairement, parce que s'ils ont de l'ambition, c'est la langue qui leur permettra de développer cette ambition du mieux possible. Mais ce sur quoi je voudrais attirer l'attention, c'est que si une langue devient trop majoritaire et nous est imposée notamment par la Commission de Bruxelles, ça veut dire que les autres langues européennes sont dévalorisées, dévaluées, et se transformeront petit à petit en patois locaux, comme nos langues régionales en France et dans d'autres pays et en Afrique se sont transformées aussi en des patois locaux complètement dévalorisés. Donc voilà sur quoi je voulais attirer votre attention. J'ai mis sur la table là-bas en bas quelques papiers qui parlent d'une campagne que notre association ICO, Instituto de Cooperar con Europa Orientale y Centrale, a développé pour essayer de promouvoir davantage le plurilinguisme que l'Europe nous amène progressivement à faire disparaître, même si c'est la politique officielle de l'Union européenne. Merci.
Merci, monsieur. Je ne sais pas si vous voulez commenter très brièvement.
Oui, juste apporter un éclairage au sujet d'une outil langue ivoirienne hein, aujourd'hui. En fait, cette langue est devenue quasiment un français de la Côte d'Ivoire, mais ce qui nous paraît assez bizarre, c'est que ce n'est pas très accepté jusque-là comme étant un français correct, je ne sais pas. Qui doit l'accepter, peut-être l'Académie française, mais qui considère que ce outil français naturalisé ivoirien, si vous voulez, n'a pas droit de cité en réalité, au fait. Donc, alors que c'est la langue que tout le monde parle aujourd'hui, si vous allez en Côte d'Ivoire, je disais dans le tableau, vous avez vu, il n'y a que 10% de nos enquêtés qui sont encore attachés aux langues locales, aux langues ivoiriennes. Donc, la langue la plus parlée, là, c'est le Nouti, qui est un français ivoirien. Donc, je pense que là-dessus, il va falloir que, je ne sais pas qui autorise, que cette langue soit autorisée à exister, hein, et peut-être à devenir le français d'Afrique. Merci.
Merci beaucoup. Je vous presser tout le monde. Monsieur Jouken, s'il vous plaît.
Merci. I will speak English because that's shorter. Dutch would even be more short, but we'll not try Dutch. I would refer to the sentence which is in the original invitation of this program, which I think is from Mr. Tremblay, and it says, mais les assises ne sont pas seulement une manifestation scientifique. Leur ambition est d'agir sur la politique et en s'appuyant sur les résultats de la recherche. And I would like to say a few words about that and then ask a question maybe to Mr. Tremblay. By the way, what I'm going to say is very much refers to the previous questions. In the 1990s, the European Commission observed the entrance of internet and all the services which are to be provided over internet into Europe. And it was afraid that the languages of Europe would really be overwhelmed to some extent by this tsunami of English technology and the language that goes with it. And so the community took an initiative to develop a program which was called the Multilingual Information Society Program. It was unanimously approved by the European Parliament, 715 parliamentarians there. Saying that this was a very good program, completely along the lines they were thinking, thinking about Europe as also a, not only economic but also a cultural cooperation. It was approved, but I must admit that afterwards, not very much has been left of the enthusiasm of the parliament of that time. To the contrary, there have not been many developments along the lines that were proposed at that time. One of the proposals was that the European Community would support the national member states to maintain and develop their own languages, to develop the infrastructures, the linguistic infrastructures for their languages. That is, have complete and systematic approach to terminology development in all the different knowledge domains that are relevant, all the research activities that were relevant, to have a systematic development of language technologies, particularly translation technology and so on. All of this, a lot of actions have been taken in the course of the times, but not a systematic approach to these domains by the member states, neither by the European Commission. And I would like to propose, again to be short, to also to the observatory here, to propose and to agir towards the European Commission and European Union in general, to take again the initiatives in this domain and really do something about it, because the languages in Europe are under great pressure. If I tell you, you know better maybe than even I do, that a lot of European universities have turned into English. And it's not the problem is to turn to English, the problem is to lose their own languages in the university. And this should stop. Thank you.
Thank you, Mr. Hoekens. I don't know if you want to comment, but I just can add that we had, once in the time, we had one commissioner for multilingualism. It was a Romanian man, Ronald Orban. It was just one. C'est arrivé une seule fois dans la vie de l'Union européenne. Nous avons eu un commissionnaire européen pour le multilinguisme. Et maintenant, le multilinguisme en Europe a pratiquement disparu au sens politique de Bruxelles. Il faut dire, je sais, vous me permettez le commentaire, je travaille un peu là-dessus au centre de politique linguistique aussi, que au Conseil de l'Europe, la division du plurilinguisme est devenue, a fait un downsizing de son downsizing d'une trentaine de personnes à deux personnes à Strasbourg en ce moment, au Conseil de l'Europe. Et pour ce qui est de l'Union européenne, il n'y reste plus, presque plus rien, puisque le multilinguisme, on est passé à un concept de embedded languages, whatever it means, and these embedded languages, c'est-à-dire les langues sont partout, et en fait elles sont nulle part, et il n'y a pas de vrai programme sur le multilinguisme. Donc votre suggestion est tout à fait pertinente à mon avis, mais il faut dire que beaucoup de choses intéressantes aussi sont vraies et très bien écrites dans les documents européens et signées par tous nos représentants de tous les pays, et qui, quand ils prennent l'avion à Zaventem pour rentrer chez eux, il y a un processus d'oubli, et ils rentrent chez eux et rien ne se passe. Je peux en parler pour les pays que je connais le mieux. Nos ministres portugais, ils signent tout est signé. On est tous d'accord sur les grandes politiques pluriculturelles, plurilinguistes, whatever. Et puis quand ils rentrent à Lisbonne, who cares, on fait notre vie. Et c'est ce qui se passe un peu de plus en plus et plus grave dans certains pays près d'ici, où les nationalismes grandissent, même si ces pays signent les accords européens, et puis rentrant chez eux, ils protègent, ils font ce que nous avons vu un exemple, ils protègent, ils empêchent certaines personnes de rentrer. Juste parce que, donc, permettez-moi, c'est un commentaire peu scientifique, plus politique, mais je m'excuse. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter, mais alors, Claude, mais très rapidement, enfin, voilà, je cède la parole au président, puis c'est à lui de gérer le reste. Merci.
Oui, j'aurais simplement apporté une précision à ce que vient de dire Célio, mais il a tout à fait raison que, on est dans des domaines où la Commission européenne n'a pas de réel pouvoir. Et donc ce sont les gouvernements qui doivent prendre leurs responsabilités quand ils ont signé un engagement. Et pour donner une simple illustration en matière d'éducation, depuis le sommet de Barcelone de 2002, les systèmes éducatifs sont censés développer un apprentissage d'au moins deux langues dès le plus jeune âge. Bon, il va de soi que cela signifie au moins deux langues au niveau du baccalauréat, bien évidemment, et même si possible au-delà. La réalité, c'est qu'actuellement, à peine plus de la moitié des États l'ont fait. Donc on est c'était en 2002, c'était la dernière consécration de cet objectif-là qui datait de bien avant. Voilà.
Merci. Et sur ces questions de language loss et domain loss, c'est-à-dire la perte de terminologie dans le domaine très spécifique, il y a des études faites, des études économiques, hein, pas des études sociales au sens émotif. L'université de Uppsala, par exemple, où il y a quelques années, je ne sais pas par cœur les chiffres, mais il y a quelques années, ils ont passé les doctorats obligatoirement en anglais, même le doctorat sur l'industrie du bois, par exemple, en Suède. Et donc, toutes les thèses, toute l'innovation a été faite en anglais. Et maintenant, les entreprises suédoises se plaignent parce qu'il n'y a pas d'innovation pour l'industrie du bois en Suède, parce qu'il n'y a plus de mots, il n'y a plus de paroles, il n'y a plus de mots pour le dire en suédois. La même chose s'est faite dans plusieurs pays d'Europe. D'ailleurs, on a vu ce matin une étude économique, mais le rapport Hagen depuis 20 ans ou 30 ans, je ne sais plus, montre l'importance économique de la langue locale, régionale, nationale pour le développement économique. Il semble que les gens l'aient perdu. La Hollande est un excellent exemple. Il y a un rapport de l'année dernière, d'il y a 2 ans, du ministère des Arts et de l'économie, du ministère hollandais, qui demande aux universités, s'il vous plaît, commencez à former les gens en hollandais, en néerlandais, et plus en anglais, parce qu'on ne devient plus compétitif. Si on forme des docteurs en anglais, ce n'est plus compétitif du tout. Donc il y a des petits exemples qui commencent à émerger. Le cas de l'Université de Polytechnique de Milano est un excellent exemple aussi, contre toute la langue. Donc il y a des petits exemples qui commencent à ressurgir, mais ce n'est pas encore assez, il faut qu'on se mette tous ensemble. Et je suppose qu'après avoir déjeuné, on aura plus de force pour se mettre ensemble. Donc je me permets de terminer ici. Merci, on continuera pendant la pause. On reprend à 14h, c'est ça? Donc we'll start it, resume at 2. Yes, Corina.